9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Après la faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis et les graves difficultés rencontrées par Crédit Suisse en Europe, y a-t-il des raisons de redouter une nouvelle crise financière mondiale comme en 2008 ? C'est arrivé demain ne s'appelle pas C'est arrivé demain pour rien. On va donc envisager le problème avec une spécialiste du système bancaire, c'est Catherine Lubochinski. On s'intéressera ensuite à toutes les arnaques qui nous menacent, notamment sur Internet, avec Charles Laval, ancien inspecteur des assurances habitué à déjouer les fraudeurs de tout poil. Il publie le grand livre de l'escroquerie. Et l'on terminera l'émission avec Renaud Nattier qui répond à la question « Faut-il brûler Tintin ?» avant même que les menaces s'abattent sur le héros préféré des jeunes de 7 à 77 ans.
Europe 1.
La Silicon Valley Bank a donc fait faillite aux États-Unis. En 3 jours, plus d'un million de tweets ont provoqué 42 milliards de retraits de la part des déposants. La cotation d'une trentaine de banques a dû être suspendue en raison de trop fortes baisses des cours. En Europe, c'est Crédit Suisse qui a montré des signes inquiétants, l'action ayant perdu plus de 80% de sa valeur en 2 ans, dont 25% en une seule journée. Et voilà le spectre de la crise financière de 2008 qui fait son retour. On se remet à craindre l'effondrement du système financier mondial. C'est pourquoi j'ai invité dans cette arrivée demain Catherine Lubochinski. Bonjour Catherine.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes économiste spécialisée notamment dans les banques et la finance internationale. Vous êtes professeure à l'université Panthéon-Assas. Vous êtes membre du cercle des économistes. Est-ce que vous êtes inquiète ?
Non, mais je suis d'un naturel optimiste, on va dire. Et puis, surtout parce que les banques sont quand même beaucoup mieux régulées qu'au moment de la grande crise financière. Mmh. Et parce que les 2 faillites bancaires aux États-Unis ne sont pas liées, a priori, à une mauvaise qualité des actifs détenus par ces banques.
Alors, regardons le cas de la Silicon Valley Bank d'abord. Hein. Sa faillite est-elle due à un mouvement de panique des clients qui se retirent qui retirent en masse leurs dépôts? Les banques sont très vulnérables à la rumeur, hein, on le sait, c'est vieux comme le monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est amplifié par les réseaux sociaux.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la SVB? C'est très intéressant. C'est une banque spécialisée avec les valeurs de la tech, hein, les startups de la tech. On estime qu'à peu près 50% des entreprises de la tech faisaient affaire avec cette banque. Alors, différents degrés, mais bon, avaient des liens avec cette banque. Pendant les années 2020-2021, l'argent coulait à flot, c'est les injections de liquidités massives, les taux zéro, un peu partout dans le monde. Et les valeurs de la tech ont été très facilement financées.
Voire gonflées.
On a beaucoup prêté, sans compter, à ces start-up pleines d'avenir, espérons-le. Et voilà, donc elles ont déposé cet argent dont elles n'avaient pas besoin immédiatement sur leur compte à la banque. Donc les dépôts de la SVB ont énormément augmenté très rapidement. Or, une banque, elle ne va pas garder des dépôts sans rien faire. Il faut utiliser ses fonds. Et elle a en particulier acheté des emprunts d'État américains. Ok, normal. On dit des actifs sans risque. On oublie de préciser sans risque de défaut, mais bien sûr, quand les taux montent, les prix baissent. Donc, c'est pas totalement sans risque. Le problème, c'est qu'elle a acheté ses titres à très long terme, et donc la sensibilité au risque de taux est plus importante. Or, en 2022, on sait que la Fed, enfin les banques centrales en général, ont recommencé à monter les taux. Et là, les problèmes vont commencer à apparaître parce que les techs vont être moins financés. Le financement vers les start-up technologiques, ça sèche. Donc, ce n'est pas grave. Ces entreprises ont beaucoup de liquidités en dépôt, donc elles utilisent ces dépôts. Et donc, la banque, la SVB, fait face à une sortie d'à peu près 73 milliards de dollars de dépôts en 6 à 9 mois, ce qui est énorme. Donc, elle utilise ce qu'elle avait prévu d'utiliser dans ce cas de figure, en vendant ses titres qui étaient là, liquides, hein, ses emprunts d'État. Sauf que, pas de chance quand même, comme les taux ont remonté, en vendant 20, 21 milliards d'emprunts d'État, elle fait une perte de 1,8 milliard de dollars. Et là, quand même, on commence un petit peu à s'inquiéter, parce qu'elle annonce en même temps que du coup, elle va quand même procéder à une augmentation de capital, parce que ses pertes utilisent du capital, font fondre le capital. Et là, les inquiétudes arrivent.
Donc, les dirigeants de la banque savaient qu'ils étaient en péril.
Alors, C'est intéressant parce que dans les comptes qui avaient été publiés en début d'année, il était bien mentionné qu'une partie des actifs en emprunt d'État enregistrés ailleurs faisait apparaître une perte potentielle de 15 milliards de dollars du fait de la hausse des taux d'intérêt. Et je pensais que n'importe quel analyste comparait quand même ce chiffre à 12 milliards de fonds propres et pourrait s'inquiéter. Alors c'est vrai qu'il y a des choses très techniques qui font que ce n'est pas des pertes immédiates, mais enfin bon, ça pouvait alerter. Mais dans cette banque, le directeur des risques avait démissionné en avril. Le nouveau directeur, avril 2022, le nouveau directeur des risques n'est arrivé qu'en janvier 2023. Donc, il y a quand même... Oui. Donc, le risque de transformation et surtout le risque de taux d'intérêt n'était pas géré. Ce qu'on remarque, c'est qu'en Europe, les banques se couvrent beaucoup plus du risque de taux d'intérêt, mais comme toute couverture et comme toute assurance, ça a un coût. Donc, les banques américaines le font moins.
On fait une pause, Catherine Dubochinski, et on y revient tout de suite, parce que tout ça peut avoir des conséquences.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
L'économiste Catherine Dubochinski, spécialisée notamment dans les banques et la finance internationale, est avec nous ce matin sur Europe 1. En effet, cette semaine, la Silicon Valley Bank a connu la plus grande faillite bancaire en 15 ans. Est-ce qu'elle risque d'en entraîner d'autres dans sa chute? Vous nous l'avez expliqué, Catherine Dubochinski. Visiblement, c'était une banque qui n'a pas toujours très bien fait son travail, et donc c'est normal qu'elle tombe. Mais est-ce qu'il peut y avoir des conséquences alors sur les déposants et sur d'autres banques?
Alors, les inquiétudes ont augmenté parce qu'il y a une deuxième banque qui a fait aussi faillite, Signature Bank, qui est localisée également en Californie et qui avait de la clientèle à peu près similaire, c'est-à-dire des clients aisés, des clients qui travaillent dans des entreprises aussi, un peu de la tech, mais il y avait beaucoup moins de concentration sur les valeurs technologiques. Ça, c'était un défaut supplémentaire des SVB, c'est que toute sa clientèle était concentrée sur le même secteur d'activité. Or, chacun sait, notre grand-mère nous l'a toujours dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on fait de la diversification, ce qui n'était pas fait à SVB. Signature Bank, c'était fait. Mais ce que les déposants ont compris, c'est que les montants déposés n'étaient assurés qu'à hauteur de 250 000 dollars. Or, il y avait des montants déposés en millions de dollars. Et donc, ils ont pris peur et ils ont également procédé à un retrait massif de dépôts, créant de ce fait un risque de liquidité dramatique qui n'était pas lié à un risque de défaut de la banque, mais qui en est devenu un.
En Europe, la banque qui inquiète, c'est Crédit Suisse, la deuxième banque helvétique, dont la valeur a dégringolé en bourse, près de 25% en une seule journée. Son actionnaire principal, la National Saudi Bank, a refusé de lui venir en aide. C'est la banque nationale suisse qui a dû intervenir pour lui permettre d'emprunter 50 milliards de dollars. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la Silicon Valley Bank?
Pas vraiment, dans le sens où ces deux banques ne sont pas reliées, ne sont pas interconnectées. Est-ce que ça a un rapport? C'est-à-dire qu'avec les deux faillites qu'il y a eu, qui se sont produites aux États-Unis, les analystes, les acteurs de la sphère financière se sont posés des questions sur l'ensemble des banques. Et on a bien vu toutes les valeurs des banques en bourse diminuer, chuter drastiquement pour aucune raison finalement. Donc c'est dans ce sens-là qu'on s'est penché sur le cas de Crédit Suisse qui de plus a annoncé au même moment une perte abyssale de plus de 7 milliards de dollars en 2022, alors que l'ensemble du système bancaire a annoncé des profits importants.
Oui, évidemment. Donc, ça fait peur.
Là, ça fait peur, ça fait peur.
Alors, c'est 5 fois la taille de Lehman Brothers, Crédit Suisse. C'est pas n'importe quoi. Elle fait partie des banques que l'on qualifie de « too big to fail ».
Oui, elle fait partie des banques qui sont systémiques et systémiques au niveau international.
Ça veut dire que sa faillite pourrait entraîner la faillite d'autres banques.
Alors, oui, parce que les banques sont interconnectées entre elles, elles ont des opérations de prêts, d'emprunts.
Mais Catherine, pourquoi est-ce que Crédit Suisse, un établissement datant du milieu du 19e siècle, qui a été longtemps la première banque commerciale du pays, avant d'ouvrir des succursales dans le monde entier, connaît-elle depuis quelque temps de telles difficultés? Parce que ça date pas d'hier. On n'arrête pas de parler de Crédit Suisse.
Ben oui, mais pourquoi on en parle à chaque fois? C'est pour annoncer une amende liée à des brèches dans leur système de lutte contre le blanchiment, des brèches dans d'autres pour détournement de fonds. Quand on regarde juste l'année 2021, qui a été assez dramatique, il y a eu l'affaire de Archegos, qui était ce qu'on appelle un family office, qui a fait faillite en mars 2021, sauf que Crédit Suisse avait investi dans cette société-là à peu près 5,5 milliards. Enfin, en tout cas, c'est la perte que ça lui a engendrée. Donc 5,5 milliards pour commencer l'année. Puis il y a eu l'affaire Greensill, qui était une société de prêt au Royaume-Uni, dans laquelle, encore une fois, avec laquelle Crédit Suisse travaillait. Ça a encore coûté 10 milliards de dollars. Et enfin, il y a eu l'amende d'un demi-milliard de dollars, à peu près, pour lier à l'affaire avec le Mozambique, sur des histoires de prêts, de disparition de 200 millions de dollars. Donc, si on fait le total, rien que pour l'année 2021, ces affaires, on va dire, ont coûté quand même 16 milliards de dollars à la banque.
Alors, l'avenir nous dira si Crédit Suisse peut être sauvé, si elle est solvable. La baisse du cours de bourse n'implique pas forcément la faillite. Hein, là, mais on voit bien que tout le monde a peur de la panique. Hein, les marchés, les actionnaires, les déposants, les autres banques, tout le monde peut paniquer. Or, c'est un système basé sur la confiance. C'est donc un système qui est vulnérable.
Alors oui, mais c'est très lié au comportement humain, et la finance comportementale est amusante à cet égard, parce qu'elle montre bien qu'il y a des périodes d'excès de confiance, de persévérance dans les croyances, qui limitent la rationalité de l'être humain. Et on voit que les bourses, en général, les cours de bourse surréagissent à toute information. Soit il y a des bulles, donc à la hausse, c'est-à-dire que les valeurs s'écartent de leurs valeurs fondamentales, soit les marchés dégringolent très rapidement, et ça s'explique parce que les investisseurs détiennent les titres. Donc quand les cours montent, c'est bien, ils font des profits, ça va. Mais quand les cours baissent, c'est la panique parce qu'ils font des pertes. Donc ils vendent encore plus rapidement, et les pertes en général, enfin les baisses de cours, sont de plus grande ampleur et interviennent plus rapidement. Donc les gens sont très nerveux. Ils ont en mémoire la crise de 2008.
Merci Catherine Lubochinski. Je rappelle que vous êtes professeure à l'université Panthéon-Assas. Et j'en profite pour signaler aux auditeurs d'Europe 1 que Patrick Sabatier anime l'invité en question tous les dimanches de 17h à 18h. Il fait revivre les temps forts de la vie d'un invité. Aujourd'hui, ce sera l'actrice Florence Pernel. Dimanche prochain, Dominique Besnéard. Et dans deux semaines, l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Charles Laval, bonjour.
Bonjour.
Ancien inspecteur d'assurance, vous publiez le grand livre de l'escroquerie chez Le Passeur. Vous y recensez toutes les arnaques, les fraudes, les contrefaçons, les faux placements, les imposteurs qui nous menacent, notamment sur Internet. C'est un gros livre de plus de 500 pages qui devrait nous permettre à l'avenir de déjouer les mauvaises intentions de malfaiteurs qui peuvent se révéler parfois extrêmement inventifs, mais qui dans la grande majorité des cas se contentent de répéter un schéma déjà employé des centaines de fois par le passé. Quand on vous propose par exemple des placements atypiques avec des rendements mirifiques de 8 ou 10% par an, alors que le livret de caisse d'épargne ne rapporte que 2%, mieux vaut se méfier qu'il s'agisse de spéculer sur les vaches ou les diamants.
D'autant plus qu'on a affaire à des gens qui sont de véritables professionnels, qui savent vous manipuler. Vous voyez par exemple une annonce, vous répondez tout simplement par curiosité, surtout que souvent dans ces annonces, on vous demande répondez pour savoir si vous êtes éligible, cette fameuse phrase qui me fait rire, vous êtes automatiquement éligible. Donc vous avez quelqu'un de parfait qui vous répond tout de suite au téléphone, qui vous attrape. Il a une voix très agréable, c'est un individu très dynamique qui connaît à fond son métier, l'histoire des placements. Et en fait, il vous en met plein la vue et tout doucement, vous vous laissez faire, guider, et vous allez prendre une décision souvent immédiate, ce qu'il ne faut jamais faire. Donc vous allez lui fournir toutes les indications et virer quelques sous. Alors là, justement, ces malfrats sont de véritables professionnels. Bon, à partir du moment où vous avez mis le doigt dans l'engrenage, ça y est, vous êtes fichu. Parce que au départ, ça y est, vous faites des beaux bénéfices, c'est même plus que 10%. Vous vous laissez faire, vous êtes ébloui, et donc vous rajoutez votre mise. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le jour où vous allez vouloir demander, je voudrais bien récupérer un petit peu de sous, alors là, c'est vraiment le cas de le dire, c'est silence radio, il n'y a plus personne.
Oui, bon. Ça rappelle évidemment le cas Bernard Madoff, qui dans cas-là a monté...
Madoff a été justement... Alors lui, ça se chiffrait par milliards.
Mais des soi-disant millionnaires qui vous proposent de les imiter en devenant riches sans effort de chez vous, en n'y consacrant que quelques minutes par jour, et vos revenus vont être doublés, triplés, quadruplés, vous allez faire fortune en un mois, en deux mois. Vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'un faux placement.
Vous décrivez parfaitement cette arnaque. Généralement, là, c'est pour devenir trader. Là, surtout, n'y mettez pas les doigts. Et 9 personnes sur 10 perdent de l'argent. Vous allez vous faire vraiment pressurer.
Charles Laval, il y a les arnaques immobilières qui sont de plus en plus nombreuses, que ce soit à l'achat, à la vente, à la location, même très courte pendant les vacances ou pour un week-end. Des usurpateurs risquent de vous extorquer de l'argent à tout moment. Fausses agences, faux marchands, faux organismes de crédit, faux locataires qui sous-louent un appartement, faux contrats de location, faux frais de dossier. Comment est-ce qu'on les voit venir ? À quoi faut-il être attentif, en peu de mots ?
Alors là, effectivement, le marché comprend beaucoup de margoulins que vous l'avez très bien décrit, que ce soit l'achat, la vente, la location, j'irai même plus loin, l'entretien, les crédits, enfin, etc. Mais prenez déjà les locations de vacances. Vous voyez une annonce, il y a des photos qui sont très bien, le loyer n'est pas très cher, c'est dans votre budget, vous répondez, tout marche très bien, vous versez votre acompte, si ce n'est même la totalité. Et puis, le jour dit, vous allez sur place et vous voyez, par exemple, il n'y a pas de maison, il n'y a qu'un terrain vague. Ou bien vous n'êtes pas le seul à postuler la location, vous vous retrouvez à plusieurs, voilà. Et il y a même, parce qu'ils sont vraiment très ingénieux, puis je dirais que l'informatique moderne, tous les logiciels permettent tous les traficotages. On a des cas où le malfrat pique une véritable annonce et se fait passer pour le propriétaire. Et puis, il va louer à plusieurs personnes. Alors, vous imaginez le jour où ces locataires arrivent tous ensemble et sont confrontés à un propriétaire qui, lui, alors, découvre ça complètement béat, se fait engueuler alors qu'il y est pour rien. Voilà. C'est pour ça que dans toutes ces arnaques, on vous conseille la règle de base, ne vous précipitez pas. Réfléchissez d'abord. Si ce sont des locaux de vacances, eh bien, essayez de voir sur Internet des images par Google Earth, etc. Voir si vraiment le bâtiment existe. Passez un coup de fil, posez des questions un petit peu particulières au propriétaire. Demandez-lui des photos complémentaires. Or, comme souvent la personne, elle se trouve dans un autre pays que la France ou de lieu, il sera incapable. Donc, méfiance, méfiance. Méfiance d'ailleurs dans tous ces placements, dans tous ces trucs.
On fait une pause, Charles Laval, on y revient, il y en a encore beaucoup.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce matin avec un ancien inspecteur d'assurance, Charles Laval, qui publie le grand livre de l'escroquerie chez Le Passeur. Alors, parmi les escrocs qui se multiplient de nos jours, il y a les imposteurs. Ils se font passer pour ceux qu'ils ne sont pas dans le but de vous soutirer de l'argent. Ce sont eux qui vous contactent par mail en vous expliquant qu'ils sont coincés à l'étranger, qu'ils ont eu un accident et qui vous demandent de l'aide, ou qui se bâtissent une réputation de riche héritière pour attirer les investisseurs comme Anna Sorokin, qui a inspiré la série Inventing Anna sur Netflix. Il y en a d'autres qui se font carrément passer pour une grande entreprise comme Air France, ou pour votre banque, ou pour votre notaire, ou même pour votre patron.
Je citerai par exemple des arnaques vicieuses où le malfrat, le hacker, va réussir à s'introduire dans la messagerie, par exemple, d'un notaire, et à ce moment-là, prend connaissance de tous les courriers Et ça peut être très grave parce que s'il tombe sur un courrier où le notaire, dans le cas d'une vente, réclame le versement de la somme qui avait été prévue et transmet son RIB pour qu'il y ait le virement, ben le hacker est maître de la situation, c'est-à-dire qu'il va remplacer le RIB du notaire par le sien. Et au départ, personne ne s'en rendra compte. Pas le notaire, bien entendu, et encore moins le client. Il voit un RIB, un message qui vient de notaire, et il verse, etc. Ça ne sera que quelques jours après que le notaire, après rappel, ben, les gens s'apercevront. Voilà. C'est pour ça que les arnaqueurs, moi parfois je les admire, parce qu'ils font des montages extrêmement ingénieux.
Oui, c'est sûr. Alors, parmi les arnaques les plus sophistiquées, il y a la fraude fiscale, ça on connaît. Il y a la fraude sociale, on connaît aussi. Il y a la fraude à l'assurance, ça vous avez beaucoup connu, j'imagine. Il y a l'arnaque à la TVA. Il y a la fraude alimentaire qui se multiplie. Hein.
Alors, la fraude alimentaire a toujours existé. Ça signifie que le produit qu'on vous vend ne correspond pas à ce qu'il doit être. Par exemple, on sait qu'il y a eu des études qui montrent que chaque année, dans le monde, il se vend plus de miel que les abeilles ne peuvent en produire. Bon, vous avez toutes les arnaques concernant, par exemple, le vin. Je cite un certain nombre d'affaires. Des affaires célèbres. Donc, méfiance. Vous êtes en vacances et vous voyez des stands de produits qu'on vous appelle locaux. Le vendeur, ben lui, il a un habit un petit peu local. On met un fond de musique local. Ben, vous vous laissez faire. Et ce produit soit, disons, artisanal, venant de la région, ben, c'est peut-être un produit industriel venant de l'étranger.
Mais c'est peut-être aussi un produit local.
Mais
c'est là où c'est difficile.
Un produit local. C'est ça qui est un peu déconcertant, c'est que les arnaqueurs ont toujours existé, ils sont là, bien entendu, ils se développent, ils ont maintenant avec l'informatique, comme j'ai dit, ça leur facilite le travail, et tout ça au dépend des véritables entreprises, des véritables
vendeurs,
etc.
Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de charlatans qui profitent de la crédulité de leurs interlocuteurs. Alors, ça va de la fausse voyante, celle-là, tout le monde la voit venir, jusqu'à Elizabeth Holmes, la fondatrice de l'entreprise Theranos, dans la Silicon Valley, qui est devenue milliardaire en faisant croire qu'elle avait inventé une technologie révolutionnaire permettant de réaliser des tests sanguins à moindre coût. Ce qui lui a permis de lever des centaines de millions de capitaux sans que jamais personne, et parmi ses actionnaires, il y avait des gens très très importants, hein, jamais personne ne lui a demandé de faire la preuve que sa technologie fonctionnait. Or, elle ne fonctionnait pas, c'était du vent. Comme quoi, tout le monde est visé, hein, aussi bien Henry Kissinger, qui s'est
trouvé
victime.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, des gens, des grandes personnalités qui se font piéger. Ça laisse rêveur d'ailleurs.
Alors il y a aussi plein de petites arnaques que vous nous racontez dans votre livre, Charles Laval, l'arnaque au rétroviseur, l'arnaque au colis retourné et non reçu, l'arnaque au trésor enterré, il y a le réveillon fantôme, il y a les magasins de meubles éphémères, on arrive, on commande des meubles, on revient trois jours après, vu qu'on ne l'a pas reçu, et en fait il n'y a plus de magasin.
Oui, c'est ça, dans mon livre, il y a un tas de petites anecdotes comme ça qui sont, je dirais, amusante, parce que c'est pas nous,
les victimes. Quoique, toutes celles-là, on l'a tous été, plus ou moins, l'arnaque au rétroviseur, le type qui vous fait croire que vous lui avez cassé son rétroviseur en roulant trop près de lui. L'arnaque au colis retourné et non reçu, ça aussi. Si ça se trouve, on l'a tous été, on s'en souvient même pas.
Vous avez toutes ces arnaques, ce qu'on appelle le phishing, l'hameçonnage, c'est-à-dire le malfrat va essayer de vous soutirer des éléments personnels, nom, adresse, âge de naissance, mais surtout vos comptes bancaires, peut-être même votre numéro de sécurité sociale, et il va pouvoir s'en servir à mal escient. Et c'est tous les jours que nous sommes soumis à des rafales de phishing.
Pour en savoir plus, le grand livre de l'escroquerie, signé Charles Laval, qui vient de paraître chez Le Passeur. Merci Charles Laval d'avoir été notre invité sur Europe 1, bien sûr.
Juste un mot, je tire mon chapeau quand même aux pouvoirs publics qui sont concernés et qui font un gros, gros effort pour lutter contre les arnaques, et notamment les cyber-arnaques. Prenez par exemple Ces derniers mois, on était constamment embêtés par des appels téléphoniques sur le compte de formation personnelle. Bon, le gouvernement s'en est mêlé et c'est interdit maintenant. Bon, l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, paraît-il, sera opérationnel un filtre. C'est-à-dire que si vous rentrez sur un site de malfrats, aussitôt vous aurez une alerte. Bon, vous voyez.
Ah oui,
et puis il y a surtout.
Ça peut nous aider.
Voilà, et il y a surtout tous ces sites créés par le gouvernement, Pharos, les plateformes Thésée, Perceval, etc., qui permettent aux victimes de pouvoir porter plainte ou de se renseigner. D'ailleurs, dans les dernières pages de mon livre, je liste un certain nombre de sites qui peuvent aider les gens. Voilà.
Merci Charles Laval. C'était Every Breath You Take, une chanson écrite et chantée par Sting. On fait une pause et on se retrouve juste après avec Renaud Nattier. Faut-il brûler Tintin ? Il va nous dire non.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Renaud Nattier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes énarque, haut fonctionnaire, tintinophile, devenu tintinologue, puisque vous avez consacré de nombreux livres à l'univers de Tintin. Le tout nouveau s'intitule « Faut-il brûler Tintin ?». Il vient de paraître aux éditions Sépia. C'est une défense de Tintin, mais est-il vraiment attaqué ?
Oui, je crois que si l'on compare à des bandes dessinées comme Gaston Lagaffe ou Astérix, effectivement, Tintin est beaucoup moins consensuel, c'est indiscutable. Et les critiques sont récurrentes. Depuis même les années 70, où c'était plutôt dans les milieux intellectuels gauchistes qu'on attaquait par exemple Tintin et les Picaros à l'époque, où on disait que Hergé mettait sur le même plan le général Tapioca qui était financé par une multinationale américaine et puis Alcazar qui était soutenu par les Picaros qui étaient des guerrieros castristes. Mais maintenant, ce qui ressort plus, ce sont les critiques plutôt sur Tintin au Congo, le colonialisme, le racisme, la misogynie en général.
Oui, alors, vous répondez à tous ces arguments et vous reconnaissez d'ailleurs que là où Tintin pourrait effectivement être attaqué, y compris par les parents des futurs jeunes lecteurs, étant donné les sensibilités actuelles, c'est qu'il tue quantité d'animaux dans Tintin au Congo notamment, qui date, il faut le rappeler quand même, de 1930. Et ça, c'est très mal vu de nos jours, y compris par les enfants, de tuer des antilopes, de tuer des singes, de tuer des rhinocéros.
Absolument, les critiques se sont un petit peu additionnées. Au début, dans Tintin et les Soviets, c'était l'anticommunisme primaire. Après, effectivement, dans Tintin au Congo, c'est le côté anti-écolo. Pour Tintin, il tue des antilopes, il fait exploser un rhinocéros à la dynamite, il dépèce un singe. Je dirais que pour Tintin, la nature est un mal, c'est un ennemi. La nature, elle n'est perçue que par des crevasses, des tempêtes de sable dans le désert, des rats de marée, etc. Il n'y a pas du tout un côté positif. La nature, elle est un petit peu comme Rastapopoulos ou Dr Muller, si vous voulez.
On voit bien que Hergé lui-même a dû se dire qu'il en avait fait trop, parce que dans Tintin en Amérique, qui succède à Tintin au Congo, lui date de 1931, il y a une représentante de la SPA, une femme qui sauve un puma en actionnant le signal d'alarme d'un train et qui sauve par la même occasion Tintin attaché sur les rails. Donc Hergé avait déjà un peu rectifié le tir.
Absolument. Ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est qu'il ne fera que rectifier le tir et que le Hergé des dernières années, le Tintin des dernières années, n'a plus rien à voir avec celui des débuts. C'est vrai. Si la représentante de la SPA n'avait pas été là, on ne serait pas là pour en parler et Tintin aurait fini ses jours sur la voie ferrée. Ça,
alors le deuxième problème...
Vous parlez de Tintin en Amérique. Par contre, c'est à cause de Tintin en Amérique qu'on a fait un auto-da-fé. Je suis parti de là pour faire mon livre. Au Canada, en Ontario, on a brûler Tintin en Amérique au nom de la défense des cultures d'origine et en particulier une mauvaise représentation des Indiens d'Amérique.
Et pourtant, ils sont pas du tout représentés à leur défaveur, les Indiens dans Tintin en Amérique.
Oh, ils sont un petit peu caricaturaux, mais bon, on a critiqué aussi, il y a le Temple du Soleil aussi qui a été brûlé. Alors là, c'est les Indiens d'Amérique du Sud, parce qu'on disait c'est pas possible de faire croire que les Incas ne savaient pas ce que c'était qu'une éclipse. Donc il y avait une vision un petit peu trop caricaturale et naïve.
C'est sûr. Alors, il y a un autre problème que vous soulignez vous-même, Renaud Nattier, en dépit du fait que vous êtes tintinophile, c'est le problème des femmes. Hein. Dans les aventures de Tintin, les femmes seraient dévalorisées, soit par leur absence, soit parce qu'elles sont ridiculisées, comme la Castafiore. Vous reconnaissez qu'elles occupent en majorité, dans les aventures de Tintin, des emplois modestes.
Oui, alors j'ai écrit d'ailleurs un petit livre hein, qui s'appelle « Les femmes dans Tintin ». Je voulais faire le point là-dessus et sur l'accusation de misogynie. On a quand même une cinquantaine de femmes dans Tintin. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des caricatures, mais il faut dire à la décharge de Hergé que tous les personnages sont des caricatures, sauf peut-être Tintin. Mais que n'aurait-on pas dit si Haddock, ivrogne et colérique avait été une femme, ou Tournesol, dur d'oreille et susceptible avait été une femme. Donc je pense qu'effectivement, vous avez raison. Ce qui est vrai, c'est pas tellement qu'elle soit caricaturale, mais qu'elle soit stéréotypée. C'est-à-dire qu'elle, en dehors de la Castafiore, qui est une diva, en dehors peut-être de Peggy Alcazar, qui est femme du général Alcazar, mais elle est femme d'eux, la plupart des femmes sont vraiment soit des femmes déshéritées de pays du tiers-monde, soit des personnes effectuant des emplois un peu subalternes dans la société, comme femmes de ménage, etc. Alors qu'à l'époque, au milieu du XXe siècle, il y avait quand même déjà dans la société des femmes médecins, chirurgiennes, journalistes, professeurs d'université. Là, elles sont quand même stéréotypées
Mais il arrive que leur intervention change la face des choses. Hein. Elles ne sont pas inactives.
Ah, pas du tout. Mais, d'ailleurs, la Castafiore, hein, pour parler d'elle, dans l'affaire Tournesol, elle sauve la vie par sa présence d'esprit dans sa loge à l'opéra. Elle sauve la vie de Tournesol et de tout le monde. Hein. C'est certain, elles sont pas inactives. Enfin, surtout la Castafiore, qui est elle qui a le rôle principal.
Mais je me souviens de la femme du chef des pompiers qui parvient à sauver Tintin aussi, je crois. Je sais plus dans quel. Je crois que c'est dans L'île Noire aussi.
Exactement, dans L'île Noire. C'est elle qui, alors que son mari, d'ailleurs, sur le coup, c'est lui qui est un petit peu ridicule et c'est elle qui retrouve les clés du garage où est enfermée la voiture de pompier.
Voilà,
c'est
important
grâce à elle qu'on peut maîtriser l'incendie.
C'est important de le dire aux petites filles qui lisent Tintin. Il arrive que les femmes aient le beau rôle dans Tintin et préciser aussi que Tintin lui-même n'est pas misogyne. Hein. Tintin, de toute façon, il est irréprochable, il est toujours du côté du bien. C'est un héros moral, sans peur, sans reproche, un héros à l'ancienne, quoi.
Tintin n'est pas misogyne, bon, je dirais qu'il est neutre, il est un peu asexué, alors c'est un reproche qu'on a pu lui faire également. D'ailleurs, même Haddock, enfin, aucun personnage n'est vraiment misogyne ou se comporte mal vis-à-vis des femmes, ça c'est un reproche qu'on ne peut pas faire à Hergé. Par contre, Tintin, oui, il est moral et il n'est pas moralisateur, hein. Il n'y a pas de prêchi-prêchat, alors que Hergé était dans un milieu, un journal très catholique, même d'extrême droite au départ, on ne voit jamais Tintin en train de prier. Enfin, la religion n'est pas, contrairement à ce qu'on peut dire certains auteurs, non, la religion n'est pas très représentée dans Tintin.
Elle est même carrément absente. Elle est carrément absente. À part dans Tintin au Congo, on voit un prêtre. Sinon, le reste du temps, elle est totalement.
Le permissionnaire. Oui.
Voilà, elle est totalement absente.
À la limite, il y a plus de, on voit plus de musulmans en train de prier que de chrétiens. Hein, ça c'est certain. Mais juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Tintin n'est pas parfait vraiment. C'est-à-dire que c'est peut-être pour ça que le film de Spielberg n'a pas très bien marché aux États-Unis. Ça n'est pas un super héros et il a des faiblesses. Tintin, il lui arrive de s'enivrer hein, au moins à deux reprises. Hein, dans Tintin au pays des Soviets, il n'arrive plus à trouver la clé de la serrure de sa chambre. Dans L'oreille cassée, il a des circonstances atténuantes, il va se faire exécuter, mais enfin, il est ivre-mort. Il lui arrive de tomber de sommeil, de fatigue, enfin, et il n'est pas totalement invulnérable et surhumain, si vous voulez.
Donc, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de sexe, les femmes sont sous-représentées. Bon, enfin, à part ça, vous n'avez trouvé aucune raison de brûler Tintin.
Vous imaginez bien que, bon, après avoir écrit 6 ou 7 livres sur Tintin, je suis c'est pas moi qui vais dire qu'il faut, de toute façon il faut brûler aucun livre hein, et comme je dis la seule chose qu'on peut pas brûler c'est nos rêves. Toute la deuxième partie de mon livre tente à mettre en avant, si vous voulez, les raisons pour lesquelles oui, je pense que on peut faire lire encore Tintin à nos enfants et oui, bien sûr il y a des qualités, je dirais un petit peu au-dessus du commun par rapport à d'autres bandes dessinées qui font que finalement, on a à peu près tout dit sur Tintin, je dirais, on en est à 600 ouvrages hein, actuellement, c'est absolument incroyable, je crois que c'est un des titres et un des auteurs les plus représentés à la Bibliothèque nationale. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Je dirais que le grand mystère, peut-être, c'est d'essayer de comprendre pourquoi des gens, justement, comme nous, qui avons découvert Tintin en général avant de savoir lire hein, à l'âge de 4-5 ans, sont touchés par une espèce de monomanie qui les entraîne à relire indéfiniment Tintin, qui est devenu un mythe. Et ça, il y a quelque chose d'un peu particulier qui met, je crois, un peu Hergé au-dessus de... Je ne suis pas sûr que ça existe quand même pour d'autres bandes dessinées comparables. De même que vous avez sur les réseaux sociaux, par exemple, des tintinomaniaques absolus qui passent leur temps à se poser des cols, à découvrir des détails. Enfin, ce qui prouve la richesse de l'œuvre. Hein. Mais je dirais que richesse n'est pas incompatible avec côté non consensuel. Bien au contraire, je dirais que c'est peut-être parce que l'œuvre est extrêmement riche que Tintin et Hergé prêtent à la critique.
Et donc voilà, si on veut défendre Tintin, il suffit de lire « Faut-il brûler Tintin ?», le livre de Renaud Nattier qui vient de paraître aux éditions Sépia. Merci Renaud Nattier d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. On se retrouve samedi prochain à 9h. Et tout de suite, c'est le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, animé par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour cher Frédéric.
Qui est votre invité ?
Notre invité, c'est le coordinateur de la France Insoumise et député de la NUPES, Manuel Bompard. Et pour l'interroger, je suis entourée de Nicolas Barré et de Mathieu Boccoté.
Eh bien, bonne émission. Europe 1.